Ouellette, en direct.
En direct. En vacances.
Toute l'innocence, là, on va aller loin.
Radio X.
Oh ouais, on est à Radio X, c'est midi 58. On a bien du fun dans les pauses. J'espère que vous avez aussi du fun de nous écouter en ce beau 9 juillet. C'est le début du festival d'été. Ça va être Limp Bizkit à soir.
C'est jeudi pré-weekend. Ah, tout le monde a du fun, puis il fait beau. Regarde.
Jour de paye.
Oh!
Ben justement, pour parler de notre jour de paye puis avoir un lien avec l'économie, mm-hmm. on a pensé inviter Renaud Brossard, qui est le vice-président communication enfin à l'Institut économique de Montréal. Moi, je le vois souvent à la télévision, je l'entends souvent à la radio. Mais je pense, Renaud, que c'est la première fois qu'on se parle. Comment tu vas?
Ben ça va super bien. Puis effectivement, je pense que c'est la première fois. Je vous écoute beaucoup quand mon collègue Gabriel Chiguère passe. C'est toujours beaucoup de fun, mais c'est vraiment un plaisir d'être là pour cette première fois.
Bon, là, vous êtes dans la Montréalité, évidemment. Là, l'Institut économique de Montréal, c'est à quelques kilomètres de Québec. Renaud, aujourd'hui, en fait, on voulait comprendre davantage les conséquences du règne caquiste, en fait, parce qu'on a compris que depuis 2018, en fait, depuis l'arrivée de François Legault et de ses acolytes au pouvoir, les subventions, l'aide, en fait, aux entreprises a augmenté. Puis là, on parle d'une augmentation qui n'est pas banale, une augmentation qui turbo-big, en fait 50% de plus de subventions aux entreprises depuis 2018. Et là, si on chiffre ça, là, c'est 8,5 milliards de dollars. Moi, Renaud, j'étudie en philo. Je ne suis pas un économiste. Je sais un peu compter parce que j'ai été serveur à l'Inox, mais visiblement, là, ça ne marche pas. Là. On ne peut pas dire qu'on a bien fait les choses.
Bien, effectivement, 8,5 milliards, c'est énormément d'argent. Et surtout, quand on parle justement de cette augmentation de 50%, faut le dire que c'est 50% après l'inflation. Je pense que c'est pas un secret, là, dans les dernières années, l'inflation a été élevée, ça a coûté cher, les gens vont sortir leur portefeuille. Ben, regardez l'augmentation des factures que vous avez eues, il y a eu 50% de plus, puis c'est ça l'augmentation qu'il y a eu au niveau des subventions. C'est énormément d'argent. Pour essayer de mettre le chiffre en contexte, ce qu'on dit, 8,5 milliards, oui. C'est beaucoup d'argent. De la visualiser, on parle d'à peu près 945$ par Québécois
1000$.
En un an.
Ben, quasiment 1000$. Oui, oui. Et ça, oui. C'est, est-ce qu'on peut attribuer ça à la volonté de Pierre Fitzgibbon de briller de tous ses feux à l'international, mais ne pas briller par ses investissements qu'il a réalisés ici même au Québec?
Ben, je vous dirais, on peut l'attribuer à ces actions-là de l'ensemble des ministres de l'économie, là, qu'on parle de Pierre Fitzgibbon, de Christine Fréchette ou de très nouvellement Bernard Drinville. Faut quand même le dire, tous ces ministres de l'économie se sont dit, bon, les subventions, il y a eu des flops chez mon prédécesseur, mais moi, ça va fonctionner quand je le fais. Malheureusement, ils succombent tous au même problème. Je veux dire, on pourrait parler de la filière batterie de Nordvolt et tout ça, ça nous a coûté beaucoup d'argent. On a
énorme.
Énormément d'argent. On pourrait parler, si on veut se remonter un peu plus dans le temps, l'ancienne C-Series, la 220, que le gouvernement Legault, que le gouvernement Couillard à l'époque était venu sauver avec un investissement de 1,2 milliard.
Pour finalement être liquidé.
Il était venu remettre de l'argent pour finalement que ça vaille essentiellement 0$ dans oui. La dernière fois que le gouvernement nous a dit combien ça valait. Tous ces placements-là, ça n'a jamais vraiment donné de très bons résultats. En fait, je dirais que si le Québec a eu une bonne croissance dans les dernières années, c'est malgré les meilleurs efforts de tous ces ministres de l'économie qui ont essayé de stimuler ça à coup de taxes élevées, mais aussi à coup de subventions.
Donc, le bilan est triste. On comprend qu'on n'a pas bien fait les choses. Est-ce que c'est propre au gouvernement caquiste d'avoir été si poche, ou c'est dans une belle tradition québécoise que ça s'inscrit? Les péquistes sont pareils, les libéraux ont fait les mêmes choses, ou c'est vraiment un moment dans l'histoire, les caquistes ont fait pire?
Ben, je dirais, écoutez, les caquistes ont fait pire, ils ont fait monter le montant à un niveau qui est plus élevé que tous leurs prédécesseurs. Mais il faut quand même dire que oui, ils s'inscrivent dans quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Je veux dire, sous Couillard, on avait Dominique Anglade à l'époque comme ministre de l'économie, qui, comme je le rappelais, avait mis de l'argent dans la C-Series, qui est aujourd'hui de la 220, où ça nous a coûté particulièrement cher. On a eu aussi, sous Pauline Marois, ou au début du mandat Couillard, la question de la cimenterie mécaniste. Je pense qu'il devait développer la Gaspésie, qui nous a coûté quasiment un milliard, si je me rappelle bien, en subvention.
Et là, c'est devenu quoi, cette cimenterie-là, Renaud? C'est devenu un parc d'attractions, genre?
Non, c'est encore une cimenterie, mais je pense que ça a été vendu à 60 millions aux Brésiliens. C'est des sommes phénoménales, puis même si on veut remonter avant ça, certains vont se rappeler de la Gaspésia au début des années 2000 oui. Sous le TQ. C'est vraiment toute une longue litanie d'interventions comme ça dans l'économie qui n'ont pas vraiment marché. En fait, on s'est penché là-dessus en se disant, écoutez, si on prenait ces 8,5 milliards-là, qu'on a envoyé aux subventions aux entreprises en 2024.
Oui.
Puis, c'est quoi, au lieu d'aller le chercher dans les poches des entreprises pour ensuite donner ça à Investissement Québec pour que les fonctionnaires décident quelles sont les entreprises à venir? Au lieu de faire
qui
ça,
sont là, les gagnants?
On faisait juste le... Ben, c'est ça, essayer de choisir qui sont les gagnants qui s'avèrent à peu près toujours être des perdants, finalement. C'est au lieu d'aller chercher cet argent-là dans les poches des entreprises, on fait juste le laisser dans les poches des entreprises en premier lieu. Donc, plus de subventions, mais on utilise l'argent épargné pour baisser les impôts. Bien, les impôts des entreprises québécoises passeraient de 11,5 à 4,5 % au provincial. Même quand on considère le taux d'impôt fédéral de 15 %, là, le taux d'impôt combiné serait du Québec l'endroit que les impôts les plus bas en Amérique du Nord.
Alors qu'on est présentement
les plus hauts. C'est pas une phrase qu'on dit souvent, là.
Non, j'ai jamais entendu cette possibilité-là.
Mais exact, on pourrait avoir le taux d'imposition le plus bas pour les entreprises dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Bien, l'effet que ça aurait, c'est sûr qu'on aurait un peu moins de photos de politiciens qui coupent des rubans rouges ou de photos de politiciens avec des gros chèques. Je dois avouer que c'est pas nécessairement la plus grande perte pour le Québec d'en avoir un peu moins. Mais le résultat, par contre, c'est qu'au moins, on aurait l'ensemble des entreprises du Québec qui pourraient en bénéficier. Puis ça va, bien sûr, des bombardiers et tout ça de ce monde qui brassent des affaires dans des milliards, mais aussi jusqu'au PME, au commerce du coin, qui aurait un peu plus d'argent dans leur poche à la fin de l'année et qui pourrait justement regarder c'est quoi les projets de subvention qu'ils peuvent faire, regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leurs entreprises sans avoir une aussi lourde facture fiscale.
Mais Renaud, je comprends que d'avoir un levier, une aide du gouvernement pour certaines entreprises, c'est important, mais n'importe qui connaît un peu l'économie sans être économiste ou même au gouvernement sait que mettre trop d'argent public dans les entreprises, c'est pas bon pour la croissance économique. Qu'est-ce que la CAQ visait comme objectif en faisant ça, en sachant très bien qu'en bout de ligne, ça aidera pas la croissance économique du Québec, là?
Mais je pense que l'objectif de la CAQ, c'est, et pour une raison que j'ignore, parce que vraiment, les textes économiques sont assez clairs là-dessus, les subventions, c'est pas quelque chose qui est particulièrement bon comme mécanisme.
Mais non.
Mais je pense que l'objectif de la CAQ ici, c'est que ce sont des gens qui étaient des dealmakers à l'époque. Je pense à Pierre Fitzgibbon, lui, il a fait beaucoup d'argent en investissement. François Legault aussi. Et ils se sont dit, si nous autres, on amène ça au Québec, cette capacité de faire des deals, on va être en mesure de faire en sorte que le Québec va croître plus rapidement que le reste du pays.
Mais pourquoi on n'a pas les mêmes résultats? Les gars se sont mis riches, ils sont brillants, ils ont le sens des affaires, mais dès que c'est pas leur argent, ou en fait, dès que c'est notre argent, ou dès que c'est gouvernemental, il n'y a pas le même désir de rendement, on dirait.
Ben exact. Et c'est exactement ça le problème, c'est qu'il n'y a pas les mêmes incitations. Si je prends 1 000 $ de mon argent pour l'investir dans une entreprise, je peux te garantir que je vais garder pour m'assurer d'avoir exactement le meilleur rendement, mais aussi une relation au risque que je vais avoir qui va être différente. Mais si je prends 1 000 $ dans le portefeuille de mon voisin pour l'investir dans une entreprise, je peux te garantir que ma relation au risque va être très, très, très différente. Je vais pouvoir prendre des placements beaucoup plus risqués parce que ce n'est pas mes pertes à moi, ça va être les pertes à autrui. Et je pense que c'est exactement le même mécanisme qui est là. Je veux dire, quand ces gens-là investissent dans des fonds privés, ils savent qu'il y a un bonus, il y a une incitation, il y a tout ça. Et c'est centré sur un objectif, il faut avoir le meilleur rendement possible. Donc, investir dans des entreprises qui ont le plus grand potentiel de croissance. Quand on se met à investir avec Investissement Québec, c'est pas le plus grand potentiel de croissance, c'est qu'est-ce qui va faire la meilleure photo, qu'est-ce qui va être dans le bon secteur, celui qui a l'air à la mode. C'est malheureusement les résultats que ça nous donne.
Renaud Brossard, est-ce que dans la boule de cristal de l'Institut économique de Montréal, on a digéré ou plutôt accès aux différents programmes des partis qui se présenteront à la prochaine élection? Puis on a déjà compris qu'il y a des formations politiques qui auraient le goût de se détacher là, de ce réflexe caquiste de subventionner à outrance. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a des postures politiques, est-ce qu'il y a des partis politiques, des politiciens qui jusqu'à maintenant ont levé la main en disant, peut-être même en direction de l'Institut économique de Montréal, en disant, nous, on va faire les choses mieux et on va les faire autrement?
Absolument. Puis sur la question des subventions, là, j'en ai deux en tête. Le Parti québécois a dit dans une certaine mesure qu'ils allaient réduire les subventions pour baisser les impôts, qui va dans la bonne direction. Écoutez, je préférerais s'il abolissait les subventions, mais au moins une réduction, ça veut dire que le problème va être moins gros après ça. Donc déjà, c'est un pas dans la bonne direction. Et l'autre, bien sûr, c'est le Parti conservateur du Québec aussi, qui parle justement de mettre fin à ces subventions-là, de réduire les impôts des entreprises. Ce sont deux propositions qui vont dans le bon sens. Je pourrais mentionner aussi Christine Fréchette qui a dit qu'elle va être moins interventionniste. Mais je dois dire, oui, j'ai quand même de la misère quand quelqu'un qui a été ministre de l'économie, qui a versé des subventions, nous dit, Maintenant que je suis au pouvoir, croyez-moi, je vais faire moins de subventions. Ouais. Ça a quand même été sa job pendant un temps. Là.
Et on n'a pas compris, en fait, dans la façon de, d'opérer les choses. En fait, Mme Christine Fréchette avait un budget à respecter ou à peu près, en fait, qui avait été octroyé par Éric, le ministre des
Finances. Éric Girard.
Éric Girard, pardon. Et ce budget-là a été explosé, je pense, dans les, dans les premiers jours.
Elle essaie de s'en détacher de ces subventions-là, mais le record de 8,5 milliards en 2024, je m'excuse, mais était pas mal là.
Ah, ben écoutez, j'aimerais pouvoir être optimiste, mais je pense qu'en 2025, on aura battu ce record de 8,5 milliards. J'ai un peu hâte de voir les chiffres. J'espère avoir tort. Et quand je regarde la croissance, la tendance de la croissance des dernières années, malheureusement, on dirait que ça va pas être juste 50 % plus, ça va peut-être être 55-60 à la fin.
L'Institut économique de Montréal ne prend jamais position, je pense, lors d'élections, n'appuie pas de politiciens, n'appuie pas de formations politiques, demeure neutre. Mais quand même, quel sera votre rôle dans la prochaine élection? Je sais que de plus en plus, on vous entend. Renaud, les prédécesseurs, en fait, qui étaient communication comme ça, n'hésitaient jamais à prendre la parole sur nos ondes et ailleurs. De plus en plus, je pense que l'Institut économique de Montréal prend une position enviable dans l'échiquier politique québécois, au sens que vous avez des choses à dire et on les entend. Quel sera le rôle de votre organisme lors de la prochaine élection, être un chien de garde pour lorsqu'il y aura des choses de dites qui n'auront pas de sens? Est-ce que vous allez lever la main en disant « Hey, ce politicien-là, ce qu'il dit, c'est des conneries?
» Écoutez, d'abord, j'apprécie beaucoup les bons mots pour l'Institut puis tout le travail de mon équipe. Là, c'est sûr que je vais relayer ça. J'ai la chance d'être entouré par des gens absolument incroyables dans cette position-là. Je vous dirais le rôle qu'on va avoir, puis c'est exactement ça. Ça va être de dans les plateformes, de regarder qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui fait pas de sens, et toujours de faire des analyses en fonction, pas de la couleur de cravate que le politicien qu'il propose porte, oui, mais plutôt en fonction de la proposition politique elle-même. Est-ce qu'elle fait du sens? Est-ce qu'elle fait pas de sens? Pourquoi? Et ce, en fonction de recherche économique.
Donc, on attendra les plateformes des différentes formations. On aura l'occasion à ce moment-là, Renaud Brassard, de se recontacter et tu nous feras peut-être à ce moment-là là, une analyse très intime de chacun. Parce qu'on attend toujours les plateformes. Hein. C'est souvent un des problèmes en politique. Dans les dernières années, on nous a servi des programmes électoraux à 30 jours des élections. Donc, on comprend que de plus en plus, les politiciens, les formations politiques misent sur des jolis minois plutôt que des idées pour parvenir au pouvoir. Donc, c'est triste, mais c'est quand même un constat qu'on peut faire tous et chacun. On sera là, donc, l'Institut économique de Montréal et Radio X pour faire la lumière, j'imagine, à l'automne là, sur bien des idées qui vont être avancées par nos politiciens qui aspirent à devenir premier ministre ou juste à aspirer au pouvoir. Hey, vous, Renaud, ça vous tente pas de carrière politique à un moment donné? Vous avez du bagou, vous avez le sens de la répartie, vous avez calculé. On aurait peut-être besoin de vous au gouvernement.
J'apprécie, mais je suis vraiment heureux là où je suis présentement.
Ouais.
J'ai la chance de défendre des idées en lesquelles je crois. Je pense que ça ne serait pas la même chose en politique, malheureusement.
Renaud, on vous souhaite l'été de vos rêves, plein de whisky. Hein? Je sais que vous êtes amateur de whisky. Puis quand vous passerez à Québec, Renaud Brassard, venez faire un tour en studio. Vous êtes toujours le bienvenu ici même à Radio X. C'était Renaud Brassard, le vice-président communication de l'Institut économique de Montréal. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Ben, merci beaucoup. À vous aussi. Bye. À bientôt.
Oui. Ah, je l'aime bien, lui.
Ben, moi, ce que j'aime, c'est que, tu sais, ils sont bien informés. Ils connaissent les chiffres, ils savent de quoi ils parlent. Ah oui. Puis, effectivement, tu sais, de trop investir d'argent public. Pensez-y, là. Les investissements de la CAQ en 2024, depuis 2024, en tout cas, du moins selon les chiffres, c'est près de 1 000 de vos poches, là. Chaque.
Par citoyen québécois.
Par contribuable. Par tête. 8,5 milliards.
1 000 $. Tu ferais quoi avec ton 1 000, toi?
Ah, oh, moi, j'ai beaucoup de projets, Gary. Beaucoup de projets.
Ah ouais, tu changerais-tu les pipes de ta moto?
Alors, demande mon argent.
C'est encore ça, ouais. Ça réagit d'ailleurs encore au 418-670-9098 à l'idée, seriez-vous prêt à vous détacher, en fait, du système de santé québécois, quitte à payer vous-même votre prime d'assurance?
C'est une idée. Ben, faut que tu le saches que ça va te coûter un 6-7 000 si jamais ça c'était possible.
Ah, tu l'as déjà chiffré?
Ben, si je compare avec les États-Unis, c'est à peu près ça.
5-6 000 $ par année d'assurance pour ta famille et toi?
Grosso modo, je pense pour une famille de 4, on est entre 5 et 10. Là. Mais si tu as ton argent en retour, tu le payes pas en impôt, ben, tu l'as pour le placer là.
On verra. La messagerie, les gens sont partagés au 418-670-9098. Ta proposition charme plusieurs âmes, mais il y en a d'autres pour qui c'est important, je pense, la gratuité universelle, gratuité relative. Là, on le sait qu'on a déjà payé. Le truc, c'est qu'on a des problèmes pour accéder à ces services-là.
Ouais.
Les gens qui n'ont pas de médecin de famille, qui tardent à rentrer dans le système quand il y a une urgence ou ne serait-ce qu'une petite maladie, c'est ça qui gosse, c'est ça qui écœure. C'est que tu as déjà payé, tu ne réussis pas à rentrer. Puis je vous le rappelle, aujourd'hui, dans le Journal du Québec, il y a la nomenclature de toutes les urgences au Québec qui sont présentement débordées. C'est pas le temps de se péter une jambe là, en vélo.
Écoute, il y a un commentaire que je trouve intéressant puis que je peux pas vérifier parce qu'effectivement, j'ai pas lu ce dont on parle, mais on dit que le système est fait que tu cotises depuis que tu es jeune, mais en fin de vie, tu vas coûter plus cher.
C'est sûr, si tu te rends.
On dit qu'il y a un cours à l'université qui explique le système, l'économie de la santé. Mais effectivement,
c'est sûr qu'un gars de 18 en santé qui boit puis qui fume pour l'instant, il n'y en a pas d'enjeu.
Existe-t-il un système parfait? Pense pas.
Mais 50 ans
plus tard. Sauf que là, je paye et j'ai pas de service.
Prenons une petite pause. 13h13, êtes-vous superstitieux? Nous, on l'est pas. On est à Radio X, on prend une petite pause. Puis au retour de celle-ci, on parle avec Steve Waterhouse, expert en cybersécurité.
Ouellet.
Bravo.
En direct.
En direct.
Radio. X.